Bonjour Stéphanie Côté.
Bonjour Marianne.
Un plaisir de vous retrouver.
Un plaisir partagé.
Je le rappelle, vous êtes nutritionniste chez Extenso. Problème de santé publique, l'obésité, quand je faisais mes lectures, j'avais quand même un petit malaise. On parle souvent dans les études de surplus de poids.
Oui.
Et je me disais, OK, mais ça signifie quoi un surplus de poids? Ça signifie quoi l'obésité? Avant d'en parler plus profondément, est-ce qu'on peut établir les grandes lignes de comment on le définit?
Comment on définit ça? Oui. En fait, le surplus de poids, c'est défini comme étant une accumulation anormale ou excessive de gras corporel qui nuit à la santé. L'embonpoint, c'est un surplus de poids qui est moins important que l'obésité. Si vous voulez, l'obésité, là, c'est comme un stade plus avancé du surplus de poids. Donc, c'est vraiment comme ça que c'est défini. Chez les enfants, ben, souvent, on regarde les courbes de croissance, mais c'est vraiment toujours une accumulation de gras qui va faire en sorte qu'il y a des fonctions, que la santé va être menacée à cause de ça.
Mais en même temps, dans la croissance d'un enfant, le poids varie énormément aussi.
Oui, oui. Tout à fait. Les enfants traversent des périodes de croissance, des poussées de croissance aussi, qui font que leur format corporel va varier. Ils ont aussi traversent une période qu'on appelle le rebond d'adiposité parfois, qui est comme une accumulation de gras avant une poussée de croissance, comme s'ils mettaient en réserve de l'énergie pour la poussée de croissance qui va venir plus tard. Mais ça, en fonction du moment où ça arrive dans la vie, ça nous donne un indice si certains enfants vont peut-être garder ce petit gras-là ou en fait en accumuler davantage dans leur vie. Donc, non, la croissance n'est pas linéaire. Il faut savoir interpréter les courbes de croissance avant de s'en faire sur le poids d'un enfant, mais effectivement, il faut aussi regarder que chaque enfant est unique.
Mm-hmm. 7,1% des jeunes âgés de 2 à 17 ans souffriraient d'obésité. Ça, c'est des chiffres recueillis en 2004 par l'Institut national de santé publique du Québec. Ce sont des chiffres qui sont préoccupants, ça?
Ben oui, c'est préoccupant. 7 % c'est quand même élevé. Puis si on regarde l'obésité et l'embonpoint, donc toutes les catégories de surplus de poids, ben là, on arrive à presque un enfant sur 4. Donc ça, c'est préoccupant parce que les enfants qui ont un surplus de poids risquent de grandir en conservant un surplus de poids puis peut-être même en accumulant davantage. Et ça peut faire des adultes qui sont obèses à leur tour et en mauvaise santé.
On connaît de plus en plus les risques associés à la santé de l'obésité. Mm-hmm. Chez l'adulte, du moins, est-ce que c'est la même chose chez l'enfant?
Oui, bien les conséquences chez l'enfant il y a certaines conséquences qui vont se manifester plus tard dans leur vie. Étant jeune adulte, ils risquent davantage de souffrir de diabète, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, d'avoir des problèmes d'ostéoarthrite aussi, là, des problèmes reliés à toute la charpente du corps. Donc ça, ce sont des conséquences qui peuvent arriver plus tard dans leur vie. Mais sinon, les conséquences les plus immédiate chez les enfants, souvent c'est relié à la santé mentale.
Ouais,
parce que les enfants qui sont obèses vont parfois être victimes de moqueries de la part des camarades et parfois être exclus. Donc, vivre une vie sociale qui déjà est difficile en très jeune âge.
C'est intéressant ce que vous dites, Stéphanie Côté. Émilie Dansereau-Trahan, elle qui est chargée des dossiers des saines habitudes de vie à l'Association pour la santé publique du Québec, nous révélait récemment dans le journal La Presse que dans les écoles, les jeunes qui sont intimidés en raison de leur poids et ils peuvent avoir de graves conséquences psychologiques liées à ça. Donc, de la dépression, de l'isolement, développement de troubles alimentaires, décrochage scolaire.
Ça va loin.
Ouais, oui, ça va loin.
Mm-hmm.
Les parents, parce que c'est eux qu'il faut viser en premier lieu, c'est à eux qu'il faut véhiculer de l'information, qu'il faut sensibiliser.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est un problème héréditaire d'abord, l'hérédité? Est-ce que si l'enfant en souffre, nécessairement le parent en souffre?
C'est plus fréquent de voir des enfants qui ont un surplus de poids dans une famille où les parents ou un des deux parents a également un surplus de poids. Mais attention, il ne faut pas se tromper, il n'y a pas juste la partie génétique qui joue là-dedans parce qu'au-delà des gènes, ce qui était surtout héréditaire, donc transmis d'une génération à l'autre, ce sont les habitudes alimentaires, les habitudes de vie.
Ouais.
C'est souvent le premier facteur qui est incriminé. Bien évidemment, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte quand on parle des causes de l'obésité, mais si on regarde la petite cellule familiale, bien là, c'est vraiment les habitudes alimentaires qu'il faut cibler.
Et qu'est-ce qu'on cible dans
Maintenant,
parlons-en. Oui. Ça, c'est votre tal, la bouffe, la nutrition. Est-ce qu'on fait un contrôle alimentaire? C'est-à-dire, il y a des aliments qu'on restreint complètement ou qu'on interdit même?
Non, surtout pas. En fait, ce qu'il faut faire, puis quand on parle d'un contrôle alimentaire, c'est un contrôle vraiment très en amont. C'est-à-dire que c'est le parent qui va décider du menu, de l'horaire des repas, de l'endroit où les repas sont pris, puis faire en sorte que l'ambiance soit agréable. Mais la quantité des aliments que l'enfant mange, ça, c'est l'enfant qui a les derniers mots. C'est lui qui doit décider parce que aussitôt que l'enfant se sent privé de nourriture, là, ça nuit à sa santé mentale et risque de devenir préoccupé par les aliments, voire même obsédé, de peut-être se cacher pour manger, d'avoir des compulsions là, dès qu'il en a l'occasion. Donc ça, ce n'est pas souhaitable. Pour les parents, ce qui est vraiment indiqué, c'est d'améliorer ou de réviser les habitudes alimentaires de toute la famille, de ne pas isoler un enfant pour lui faire un régime spécial ou l'alimentation particulière, surtout pas. C'est vraiment une histoire de famille. C'est toute la famille qui doit manger mieux, manger bien, manger avec plaisir aussi et faire en sorte que les aliments qui se retrouvent sur la table soient nourrissants. Évidemment, on veut une abondance de fruits, de légumes, d'aliments pas trop gras, pas trop salés non plus. Pas trop sucré aussi. Donc, faire en sorte qu'il y ait de la couleur dans l'assiette, qu'il y ait des aliments rassasiants, que l'enfant mange à sa faim. Ça, c'est important si on ne veut pas aggraver le problème puis en faire un problème qui va durer encore même plus longtemps.
L'enfant a le contrôle sur ses portions. Est-ce qu'on peut lui donner des choix, c'est-à-dire tu prends deux assiettes mais pas de dessert? Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne?
Pas nécessairement. En fait, l'enfant, surtout si on l'habitue jeune à ça, est très sensible à l'écoute de ses signaux de faim et satiété. Un enfant régule ce qu'il mange de manière naturelle. Donc, si on lui donne des aliments nourrissants, à partir de là, c'est à lui de décider. S'il a faim pour une deuxième assiette, bien, ça sera une deuxième assiette. S'il a faim pour un dessert, quand même, ça sera une petite portion de dessert. Attention à ça quand même, il y a des exemples à donner aux enfants puis des conseils aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'avant de donner une deuxième assiette, on peut dire à l'enfant, mais attends un petit peu, on n'est pas tous rendus là, attends un peu avant d'avoir la deuxième assiette. Même chose pour le dessert. On va montrer à l'enfant puis lui enseigner aussi que c'est mieux de manger plus lentement, de prendre son temps pour manger. Souvent, on mange moins vite puis on mange moins aussi. Comme parent, il faut montrer à l'enfant que quand on n'a plus faim, bien, on arrête de manger.
Ouais.
Ça, ce n'est pas acquis chez les adultes. Normalement, c'est naturel chez les enfants, mais dépendamment de l'influence qu'ils subissent, bien, ils peuvent les ignorer, là, ces signaux-là là, qui leur disent quand s'arrêter. Mais si on montre à l'enfant qu'on prend notre temps pour manger, puis quand on mange, on mange. On n'écoute pas la télé en même temps, on ne joue pas en même temps, on ne lit pas en même temps. On est concentré à ce qu'on fait parce que c'est la seule façon qu'on va pouvoir ressentir le signal qui nous dit « ben arrête de manger, tu n'as plus faim ». Donc ça, c'est important.
Reconnaître les signaux de satiété quand on ne l'a jamais fait, même si on n'a que 7, 8 ou 9 ans, si on n'a jamais été amené à ça, habitué à ça, ça peut être un grand défi. Et en fait, mon interpellation, c'est « et si même le parent n'a jamais été sensibilisé à ça? » Et là, soudainement, son enfant a peut-être des problèmes de santé ou du moins une condition qui pourrait le mener en avant. Et là, il doit lui-même réapprendre tout ça. C'est un grand défi. Oui. On commence par quoi?
Mais en fait, il faut commencer par reconnaître, faire la différence entre la faim et l'appétit. La faim qui est vraiment la sensation physique de dire j'ai faim, il y a une faiblesse, il y a un creux dans le ventre, dans l'estomac qui fait en sorte que j'ai besoin de manger, je manque d'énergie. Et l'appétit qui est le désir de manger. Parce que l'appétit peut être présent sans que la faim le soit. Et ça, parfois, ça pousse les gens à manger. Et de savoir reconnaître qu'on n'a plus faim, mais ça, c'est vraiment en prenant le temps de manger, en mangeant, consacrant aussi là, notre temps au repas et non en faisant autre chose, et en se demandant au cours du repas, en essayant d'être conscient des sensations qui s'opèrent en nous quand notre ventre commence à se remplir, quand les aliments commencent à être moins savoureux aussi. Ce sont des signes qu'on a moins faim et qu'il faut peut-être commencer à penser à arrêter de manger. C'est sûr que chez les gens qui n'ont jamais été à l'écoute, mais parfois ça vient avec le contrôle de la portion. Là, je parle surtout pour un adulte, mais pour les enfants, l'idéal, c'est vraiment d'essayer de les reconnecter avec leurs signaux parce que chez les enfants, vraiment, c'est possible de le faire. Quand ils sont rassurés qu'ils ne mourront pas de faim, là, quand ils sont rassurés qu'on ne les restreindra pas, qu'on ne leur interdira pas de la nourriture, ils ont cette capacité-là d'être à l'écoute de leurs signaux, puis même de renverser une tendance s'ils n'ont pas été petits parce que malheureusement, on les a peut-être forcés à manger
ou qu'on n'était pas sensibilisés à ça à ce moment-là. Pas...
Voilà.
La bonne nouvelle dans tout ça, parce qu'il y a toujours des bonnes choses, c'est que si le parent veut avoir, entre guillemets, un meilleur contrôle, une meilleure vision de ce que son enfant mange, bien, il sera présent au lors de la prise des repas. Et ça, si ça peut amener les familles à manger ensemble, bien, ça peut être un point de vue positif.
Oui, tout à fait.
Également, je voulais vous amener... Oui, voilà. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont plus rassasiants que d'autres? Là, je pense à la boîte à lunch, les collations, pour justement éviter les fringales et de se lancer dans les chips là, au retour de l'école.
Mais en fait, il y a plusieurs trucs dans l'alimentation, tant au repas que les lunchs près l'extérieur et les collations, pour que l'alimentation soit nourrissante, rassasiante, mais pas trop riche en calories, en tout cas pas plus qu'il n'en faut. Il faut faire une place importante aux fruits et aux légumes parce qu'ils prennent beaucoup de place dans l'assiette, beaucoup de place dans l'estomac, mais ils sont relativement pauvres en calories et en gras. Donc, les collations puis au repas, ça prend des fruits et des légumes toujours. Sinon, bien, des aliments qui sont rassasiants, ça prend des aliments qui sont riches en protéines. Donc, des viandes, des substituts, que ce soit la viande, le poulet, le poisson, les légumineuses, le tofu, les œufs, ça n'en prend à tous les repas pour que vraiment qu'on ait de l'énergie entre deux repas et qu'on n'ait pas une petite fringale. Il y a aussi les aliments qui sont riches en fibres alimentaires, qui sont digérés plus lentement et donc qui nous permettent de nous rendre plus loin aussi. Donc, les produits céréaliers à grains entiers, le pain de blé entier, les céréales à grains entiers, ça, ce sont vraiment des aliments qui nous permettent de ne pas avoir faim tout de suite après un repas et donc de contrôler les fringales vraiment là, dans la journée.
Et que les enfants aiment manger parce que la notion de plaisir, et j'y reviens, ça demeure important quand on est enfant.
Oui, tout à fait, mais les enfants aiment évidemment ce qui est bon au goût, mais ce qu'ils apprennent à aimer, ce qu'ils apprennent à voir les adultes près d'eux aussi manger avec plaisir. Les enfants, c'est faux de penser que les enfants aiment juste ce qui est très sucré ou très salé ou frit ou mou ou peu importe. Les enfants apprennent à aimer ce qu'on leur offre souvent. Donc, des muffins maison qui sont à peine très peu sucrés, pas trop gras non plus, les enfants vont les aimer. Les céréales à déjeuner, ça n'a pas besoin d'être des céréales arc-en-ciel, super colorées. Les enfants vont apprendre à les aimer. Il y a moyen de préparer des desserts à base de fruits ou même de céréales qui vont être super nutritifs. Et les enfants vont aussi apprendre à l'aimer. Ils n'ont pas besoin de manger des croquettes. Une poitrine de poulet, un morceau de poisson qui ne sera pas pané va faire aussi bien le travail. Donc, il faut s'enlever cette idée-là de la tête comme adulte, de penser qu'il y a des aliments pour enfants spécifiques et qu'ils trouvent leur plaisir seulement là-dedans. C'est beaucoup plus vaste que ça.
Il y a l'effet également d'entraînement quand on est enfant. On sait que notre ami, notre petit voisin, ben lui, il peut aller manger à la chaîne alimentaire du coin qui est super populaire, fast-food, entre guillemets, et que, peut-être que chez lui, c'est pas la même chose. Mais j'ai déjà eu cette conversation avec vous, Stéphanie Côté. On n'interdit pas, bien, on en parlait tantôt, on n'interdit pas d'aliments, mais non plus de catégories d'aliments. C'est-à-dire qu'on peut aller manger parfois dans des restos.
Absolument. Oui, on peut. Il ne faut pas interdire les aliments parce que dès qu'on interdit, les aliments deviennent plus attrayants, puis on veut absolument, on est encore plus tenté. Donc, il faut faire une place à ces aliments-là, mais sur une base vraiment occasionnelle, voire même exceptionnelle peut-être, mais que ça puisse quand même faire partie de l'alimentation parce que sinon, bien, on développe une préoccupation qui est excessive. Donc, il faut que les enfants... Oui, on peut amener les enfants au restaurant, on peut même amener les enfants à manger du fast-food une fois de temps en temps, mais il faut faire attention de ne pas relier ces restaurants-là seulement au plaisir. Ouais. On peut aller chercher du plaisir en se faisant une bonne bouffe à la maison, en faisant un pique-nique, en allant manger dans d'autres types de restaurants aussi. Il ne faut pas juste célébrer ou fêter avec du fast-food, des frites puis des boissons gazeuses. Il faut vraiment associer les aliments des aliments nourrissants au plaisir aussi, parce que cette notion-là, l'expérience que vit un enfant en mangeant un aliment va être marquante après ça sur son plaisir de le manger.
En terminant, est-ce que les écoles, les milieux scolaires, les différents intervenants, les adultes autres que les parents ont également un rôle à jouer?
Oui, absolument, parce que les enfants ne mangent pas seulement à la maison. Si je pense entre autres aux services de garde, les éducatrices ont un rôle primordial auprès des enfants, les responsables d'alimentation qui préparent le menu, les repas pour les enfants aussi, autant en termes de qu'est-ce qu'on offre aux enfants que comment on gère l'heure du repas avec les enfants, quel exemple on leur montre, quelle attitude on adopte envers eux en ne les forçant pas à manger, en les incitant à, en fait, en les encourageant à goûter sans les forcer, en leur montrant que c'est plaisant bien manger. Donc oui, les adultes ont un rôle et tous les adultes, tous les acteurs de l'offre alimentaire qui gèrent les cafétérias, ça aussi c'est important, ceux qui s'occupent de la nourriture dans les événements sportifs par exemple ou culturels où il y a des enfants, tout le monde a vraiment sa part de responsabilité parce que on a les enfants ont de multiples occasions de manger dans une journée, dans une semaine, dans une vie. Et c'est donc l'offre qui vient de partout qui est à réviser parce que le problème fait partie de toutes ces sphères-là, donc les solutions aussi.
Mm-hmm. Une grande part aussi dans l'essai de contrer l'obésité chez les enfants, c'est d'apprendre à aimer l'activité physique également. Une petite étude que j'avais envie de... Bon, j'ai envie de vous en parler. C'est une école primaire, une initiative d'une école primaire d'Australie qui a mis sur pied un projet pilote dans une classe de sixième année. Et ce projet-là permet aux élèves de travailler debout. Mm-hmm. Et c'est un projet pour justement tenter de contrer l'obésité parce qu'en se tenant debout, il y a plein d'effets positifs. Bon, ça améliore la circulation sanguine, à travers le corps, ça réduit la fatigue. Et si le projet était concluant, ben ça pourrait prendre vraiment de l'ampleur.
C'est intéressant.
Oui, c'est intéressant. Oui, oui. Et ça m'amène toujours à penser qu'en étant créatif et par de petites choses, on peut amener de grands changements et toujours dans une notion de plaisir parce que ces enfants-là, ils ne se sentent pas contraints. Là.
Ça passe par le jeu.
Ils sont contents de travailler debout. Et tout ça, bien sûr, pour faire un lien parce qu'on va parler de ça, l'activité physique. Stéphanie Côté, merci.
Merci, Marianne.
Ça a été un grand plaisir.